Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et toujours avec Jean-Pierre Foultier, bien sûr, à nos côtés. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Un titre en forme de question, je crois, pour cette troisième chronique de la série L'Europe et ses États. L'Union européenne, un État ? Point d'interrogation. Je suppose que c'est de la nature même de cette construction européenne dont vous voulez donc nous parler aujourd'hui.
J'ai parlé souvent à ce micro de la construction européenne pour en évoquer un aspect particulier, pour en retracer le cheminement, et je me rends compte que je n'ai pas encore vraiment abordé ce qui constitue effectivement la nature de cette OPNI, O-P-N-I, objet politique non identifié, comme aimait à la qualifier Jacques Delors lorsqu'il était président de la Commission européenne dans les années 80 et 90.
OPNI donc. Pour répondre tout de suite à votre question titre, ce n'est donc pas vraiment un État ?
L'Union européenne n'est pas du tout un État. Même si elle s'est donné un drapeau, un hymne extrait de la 9e symphonie de Beethoven, une devise, unie dans la diversité, et nous l'avons vu il y a peu, une date officielle, cette journée de l'Europe du 9 mai. Ces symboles sont traditionnellement les attributs des États, mais pas seulement. On sait que les clubs de foot ont bien aussi leurs couleurs. L'Union européenne est une construction politique originale et vraiment unique au monde et dans l'histoire. Si l'on a vu et si l'on peut voir ici ou là des alliances entre États se constituer et fonctionner, aucune n'a le caractère d'intégration, c'est-à-dire sommairement de mise en commun d'un certain nombre de compétences sur lesquelles, bien sûr, je reviendrai, aucune autre alliance ou coopération entre États n'a non plus créé une citoyenneté originale comme l'est la citoyenneté européenne.
Donc une construction commune, mais qui s'est faite de quelle façon ? Je pense que ce serait peut-être utile d'y revenir également un petit peu.
Oui, bien volontiers. On dit communément que l'Europe s'est construite dans un projet économique. Au départ, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la CEE, Communauté économique européenne. Mais la démarche a été avant tout politique, comme en atteste le discours fondateur de Robert Schuman du 9 mai 1950, dont je rappelle quelques lignes. Pour que la paix puisse vraiment courir sa chance, il faut d'abord qu'il y ait une Europe. 5 ans presque jour pour jour après la capitulation sans condition de l'Allemagne, la France accomplit le premier acte décisif de la construction européenne et y associe l'Allemagne. Fin de citation. L'Europe est donc dès le début un projet de paix et elle ne cessera de se revendiquer comme espace démocratique. Elle associe d'abord les 6 pays signataires du traité de Rome de 1957, France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, puis s'ouvrira dans les années 80 à la Grèce, à l'Espagne et au Portugal, 3 pays depuis peu sortis de dictatures fascistes, leur permettant ainsi de consolider leur ancrage démocratique. Et c'est encore dans cet esprit que se fera dans les années 2000 l'adhésion des anciens membres du bloc soviétique, Pologne et Hongrie, dont nous avons dit la semaine dernière qu'elles avaient encore des progrès à accomplir en matière d'état de droit, mais aussi République tchèque, Bulgarie, Roumanie, etc., et des pays de l'ancienne Yougoslavie, comme la Slovénie et la Croatie.
Il y avait encore, il y a peu, on s'en souvient je pense, le Royaume-Uni.
Il y était entré librement en 1973 et il en est sorti librement en 2020. C'est très simple. Et l'exemple du Royaume-Uni est de ce fait assez parlant. Les Britanniques ont toujours bataillé pour que l'Europe à laquelle ils avaient adhéré reste seulement un espace économique, un vaste marché de libre-échange, refusant d'entrer dans la zone euro et dans l'espace Schengen notamment, et cherchant à bloquer toute décision qui aurait visé à faire de l'Union européenne une vraie organisation politique.
Donc l'Union européenne n'est pas un État, mais une organisation politique.
Oui, une organisation qui tient ses pouvoirs des différents traités qui ont jalonné son histoire depuis le traité de Rome de 1957. Des traités qui ont tous dû être approuvés par les États membres, soit par voie parlementaire, soit par voie référendaire, comme cela a été le cas pour le traité de Maastricht en 1992. En Irlande, où il a recueilli 68% des suffrages, plus difficilement en France avec seulement 51%, et encore plus difficilement au Danemark, qui a dû s'y reprendre à 2 fois pour le faire approuver. je rappellerai seulement que le traité de Maastricht, du nom de la petite ville des Pays-Bas où il a été signé, est le traité fondateur de l'Union européenne actuelle, qui a institué l'Union économique et monétaire, dont la monnaie sera l'euro, mise en service en 2002, mais aussi la citoyenneté européenne. Il renforcera également les pouvoirs du Parlement européen, nous aurons l'occasion d'en reparler. Le dernier traité majeur, qui est actuellement le traité de référence de l'Union européenne, c'est le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, le président français d'alors étant Nicolas Sarkozy. Un traité contesté encore par certains au motif qu'il serait en quelque sorte venu pallier l'échec de la ratification du projet de constitution européenne retoqué par référendum en 2005 par les Français et les Néerlandais, bien qu'il ait été approuvé de la même façon, on le sait peut-être moins, par les Espagnols et les Luxembourgeois.
Et celui-là sera ratifié ?
Oui. Je le répète, pour qu'un traité soit mis en œuvre, il faut qu'il soit ratifié par tous les États membres. Ce qui fait que l'institution politique Union européenne est dans sa nature issue de la volonté des États qui la composent de dépasser en quelque sorte leur propre souveraineté nationale pour confier un certain nombre de compétences à une institution commune. Le traité de Lisbonne sera finalement ratifié par l'ensemble des 27 États, en France et aux Pays-Bas, qui avaient rejeté le projet de constitution par référendum. Il le sera par voie parlementaire et il est entré en vigueur le 1er décembre 2009.
On arrive au bout de cette chronique, mais il me semble que vous avez encore des choses à nous dire sur le fonctionnement des institutions européennes.
Oui, sur cette architecture de l'Union européenne que le traité de Lisbonne a redéfinie et sur les pouvoirs de chacune des institutions qui la composent. Nous nous demanderons aussi dans quelle direction peut aller une union toujours en devenir, vers plus d'intégration, c'est-à-dire de compétences mises en commun, ou vers un renforcement de la voix des États.
Alors si j'osais, je dirais Jean-Pierre, à la semaine prochaine.
Eh bien, osons Sébastien, à la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.